Deux jalons, Pinfiano qui vient clore le 16e et ouvrir à cette explosion de la fiction qui caractérise le 17e siècle. Banfes Candamo qui vient pour lui, disons, solder en quelque sorte la réflexion poétique du 17e et ouvrir à celle du 18e. À des niveaux divers, de façon différente, on va rapidement le voir. C'est surtout ça que je voudrais mettre en évidence. Ce sont deux textes en quelque sorte pas comparables, mais c'est justement ça qui est significatif. Je disais donc rapidement que le Pinfiano était un médecin qui avait décidé de rédiger une poétique parce que, comme il l'explique dans son prologue, il en allait du salut de la République. Donc pour lui, la poétique, le fait de disposer d'une poétique digne de ce nom, d'une philosophie de la poésie, est une affaire de salut public. Et il s'en explique et cela justifie que lui, médecin, doive mettre la main à la pâte et rédiger ce texte qui faisait défaut. Cette finalité théorique du Pinfiano répond donc à son titre, je disais Philosophia, c'est bien ce qu'est ce texte, et explique également la façon dont il est construit. Et je disais qu'il s'agit d'une succession de épistolas, chacune consacrée à un sujet particulier. Mais ce qui m'intéresse ici de mettre en avant, c'est que ces épistolas recueille la discussion entre trois amis, ce qui permet à Pinfiano justement de ne pas affirmer les choses de façon parfois tranchée ou définitive, mais souvent de poser les problèmes, de ne pas toujours forcément fermer, de ne pas toujours forcément résoudre, en tout cas de traiter les questions très pointues qu'il traite de façon très nuancée. Donc la construction en dialogue lui permet justement la nuance dans la façon de traiter les différentes questions de la poétique qu'il est en train de reformuler. Le cas de Banfes Candamo est par opposition très parlant. Pour sa part, il s'agit bel et bien d'un professionnel du théâtre, et lui aussi va beaucoup insister sur cette dimension. Il s'agit du dramaturge par excellence de la période, dramaturge officiel du roi Charles II. Philippe Meunier nous en parlera tout à l'heure, et c'est sur cette légitimité qu'il va s'appuyer pour rédiger son texte Teatro de los pasados y presentes siglos. Si le texte est présenté comme un texte théorique, et il l'est en quelque sorte, c'est surtout, pourrait-on dire, un texte polémique. La comparaison là aussi avec Lopez Pinfiano est parlante. Lopez Pinfiano est vraiment dans une construction théorique et poétique, mais théorique, un but très réflexif et théorique. Banfes est plutôt dans une perspective polémique avec le père Camargo, qui avait publié une condamnation de la scène espagnole de l'époque. J'y reviendrai rapidement. Donc, un texte avisé polémique, il s'agit de défendre le théâtre, et dont le titre, là aussi, me semble parlant. Teatro de los teatros de los pasados y presentes siglos. Il s'agit non pas d'una filosofia, ni même d'una nueva idea de la tragedia, comme dans le cas de González de Salas. Il s'agit moins de réfléchir que de mettre en scène sur un teatro, et les teatros de los pasados siglos et le teatro de los presentes siglos. Donc, on est plus dans la mise en scène, la confrontation, que dans la véritable réflexion théorique, me semble-t-il, dès le titre. Alors, Il s'agit, et ça aussi c'est une différence essentielle entre les deux thèses, d'un côté je disais quelque chose de très construit, de très réfléchi, de vraiment ciselé, dans le cas de Pinciano, et dans le cas de Banfès, et là c'est pas forcément de sa faute, même si je vous le montre comme ça, il a l'air bien fini, bien relié, etc. C'est un texte inachevé. En fait, on travaille sur un texte qui est en fait reconstitué par son éditeur moderne. Et voilà, donc cette édition rassemble trois versions reconstituées par Moyle, on dit Moyle, hein, on prononce comme ça, donc par Moyle, après un patient travail d'interprétation et de réorganisation. Il présente donc trois versions que je prends comme telles et qui sont intéressantes. Évidemment, on n'a pas un texte construit fini, donc on ne peut pas trop se fier à la contextualisation des arguments, etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la progression entre les versions. On voit bien une espèce de work in process. Et surtout, c'est une progression, disons, formelle. On voit bien que la première version est rédigé plus sous le feu de la polémique, la réponse, et que les autres sont peut-être plus apaisés, vont plus dans l'érudition, mais dans tous les cas, il ne me semble pas qu'on puisse parler d'une réflexion qui s'étoffe d'un point de vue théorique. Il ne me semble pas que l'on puisse voir sur le fond. Peut-être que Alain ne sera pas d'accord, mais il ne me semble pas qu'il y ait là une véritable progression théorique. Il y a une progression peut-être rhétorique, mais il ne me semble pas que sur le fond, les trois versions, elles se complètent, mais elles se complètent d'autant mieux qu'il n'y a pas véritablement de progression. Les positions de Banfès dans la première version, telle que la propose Moyle, me semble être la même que dans la troisième version. Je vais donc m'y référer de façon un peu indifférenciée sur le fond, même si je ferai référence, je vais faire vite, mais je risque de faire référence à l'une ou l'autre. Et tout ça pour dire qu'il y a une cohérence dans le fond des positions des Banfès. Alors, comme je le disais, c'est un texte de réponse, un texte, en tout cas, une poétique pensée comme une dans le feu de la bataille. Et la façon dont Banfès présente son travail, la façon dont il pose les termes du débat, conditionne la façon dont il va construire son texte. Comme je le disais, ce texte est pensé comme une réponse au Padre Camargo. Et les termes du débat sont posés dès le prologue. Je cite Banfès. Ninguno ha dudado hasta oír que los sacros cánones, los decretos pontíficos, las leyes imperiales de todo el derecho civil y las municipales de estos reinos, juntamente con todos los padres y doctores de la Iglesia y la común de los teólogos modernos, reprueban por torpes, obscenas, abominables y absolutamente culpables las teatrales escenas. Pero el punto crítico de la cuestión reside solo en averiguar si las comedias que hoy en nuestra España, con hereditaria aprobación de sus catolicísimos monarcas, de sus doctísimos consulados, de sus piadosísimos confesores y de los apostólicos y ordinarios tribunales eclesiásticos, se permiten, son conforme a las que reprueban los santos padres o se ajustan a las que dan por lícitas los mismos santos severísimos censores de ellas. Voyez qu'il se pose frontalement à Camargo qu'il délégitime d'entrée. Il continue en disant: esta duda tiene dos artículos. Uno es la averiguación puntualísima y directa de los teatros de aquel siglo, el teatro de los pasados siglos, y otro es la inquisición exactísima de los del presente. En fait, il est en train de retourner les arguments de son adversaire qui défendait que la tragédie avait une grande dignité dans les siècles anciens, mais que maintenant elle était corrompue et corruptrice. Et à cela, Banfès oppose la nécessité d'une averiguation puntualissima et directa de los teatros de aquel siglo, sous-entendu Camargo n'y connaît rien, Et deux, l'inquisition exactissima de los del presente, sous-entendu Camargo n'y connaît rien. Donc, tout l'averiguación está por hacer et c'est ce que je vous propose. Par ailleurs, et c'est le deuxième élément essentiel dans ce prologue où il pose les termes de la discussion avec son adversaire, Banfès fait valoir son grade et sa qualité de dramaturge. Et surtout, je l'évoquais tout à l'heure, mais surtout, par opposition, il refuse aux théologiens toute légitimité à intervenir dans un tel discours. Et là, c'est effectivement un écho de ce que disait Philippe tout à l'heure. On refuse à la théologie, on n'est plus au temps de Vittoria qui ouvrait sa leçon sur le pouvoir civil en disant qu'en tant que théologien, tout sujet relevait de sa compétence. Là, c'est exactement le contraire, c'est parce qu'il est théologien que Camargo n'aurait jamais dû se mêler de ses affaires. C'est effectivement sans doute un écho, un héritage de l'examen ingenios de Huarte qui considérait que chacun devait s'appliquer au métier qui lui correspondait le mieux. Donc Banfès met en avant son expertise en tant que dramaturge, en tant qu'homme du théâtre, en tant que censeur, etc. Mais cette prémisse, me semble, a une conséquence particulièrement intéressante pour notre propos, au-delà de cette opposition avec son adversaire, c'est qu'il met en avant la dimension essentielle de la praxis pour légiférer sur cette question. C'est-à-dire qu'on a le droit de donner son avis sur le théâtre que si on en a la pratique de l'écriture, mais aussi la pratique de l'écoute et voilà, escuchar una comedia, on sait bien que las comedias escuchan, en tout cas la pratique du spectateur, ce qu'il refuse évidemment à ce pauvre Camargo dont il dit que non seulement il n'a jamais rien écrit, mais en plus il n'y connaît rien parce que tout appliqué qu'il est à son retiro piadoso, il n'est jamais allé voir une comédie, et qu'en gros il parle de ce qu'il ne connaît pas. Il est assez virulent, hein, et c'est assez rigolo. Donc, il réaffirme sa légitimité et le manque de légitimité de son adversaire de façon extrêmement, extrêmement affirmée. Je vous passe les citations, vous pourrez les lire plus tard. Je me demandais aussi si dans cette affirmation de la praxis comme pierre de voûte de la légitimité pour s'occuper de théâtre, il n'y a pas aussi quelque chose qui pourrait faire écho à ce que disait Philippe tout à l'heure, à cette nouvelle attitude qui est en train de s'imposer, à savoir la prééminence de l'expérience hein, par rapport à la simple réflexion. Donc voilà, j'insiste beaucoup puisque Banfès en fait la pierre de voûte de sa réflexion, la praxis est la condition de possibilité d'un discours légitime sur le théâtre. D'ailleurs, et c'est l'autre réflexion que m'évoque cette insistance sur la praxis, c'est que, en effet, Banfès ne me semble pas être un grand théoricien. Il revendique effectivement sa légitimité. Il connaît quand même, il connaît son affaire. Mais en termes de réflexion philosophique ou poétique, il ne me semble pas qu'il aille bien au-delà de sa grande référence qui est González de Salas, hein, dans la Nueva Idea de la Tragedia Antigua, auquel il renvoie lui-même respectueusement. Et ce qui est rigolo, je vous dis ça parce qu'évidemment ça m'a touché, ça m'a fait sourire, c'est que quand il fait référence à López Pinciano, bien plus éloigné dans le temps, il confond en citant le titre « La philosophie antigua poética de López Pinciano » avec « La philosophie secreta de Pérez de Moya » que Philippe connaît bien. Donc ça montre bien que c'est un texte dont il connaît l'existence, mais qu'il ne connaît, à mon avis, pas vraiment. En tout cas, je n'en vois pas vraiment la trace dans les fragments dont on dispose. Bref, Banfès n'est pas un vrai théoricien et c'est pas en cela qu'il pourra nous intéresser. On dirait pourquoi ce parallélisme avec Pinfiano ? Justement, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que la perception que sa défense de la commedia à la fin des années 80 nous donne de la façon dont la perception de la poésie, de la fiction a évolué tout au long du siècle et notamment sans doute du fait des grandes polémiques littéraires qui ont traversé le siècle. Et dans cette perspective, ce qui me semble le plus frappant et que je voudrais mettre en avant, c'est que malgré cette opposition très tranchée que j'ai très rapidement mise en avant, cette opposition très tranchée avec Camargo, il me semble que ce qui est évident, c'est que Banfès partage totalement le postulat de base de son adversaire, à savoir non seulement que la commedia doit être morale, évidemment, personne n'allait dire le contraire, mais aussi, et ça me semble plus significatif, sur la façon dont la commedia doit être morale. Parce que Pinfiano aussi considérait que la commedia devait être morale, même Lope lui-même, je pense, on ne peut pas dire qu'il considérait que la commedia devait être immorale. Mais là où la différence se joue, et ce qui est significatif, c'est la façon dont cette moralité opère. Et c'est là, je crois, que se joue toute la différence. C'est là que bascule l'esthétique à ce moment-là du XVIIe siècle. C'est pourquoi, et c'est ça qui m'a frappé, c'est là-dessus que je voulais insister. On est étonné, ou en tout cas surpris. En tout cas, c'est particulièrement significatif de voir que, comme je l'annonçais un peu tout à l'heure, Banfès ne revient pas sur les différentes notions de la poétique classique. Il en reprend quelques-unes, surtout une, le decoro. Mais il ne la reformule pas. Et surtout, il ne la reformule pas de façon, disons, théorique. Il n'en donne pas, me semble-t-il, sous réserve, mais il ne me semble pas qu'il en donne une définition telle quelle. Par contre, on comprend très bien, très vite, ce à quoi il fait référence, ce qu'est le décolo pour lui. Et je vais un peu m'arrêter là-dessus, parce que c'est, je crois, un peu le meollo de la question. La première version commence par un balayage plus ou moins érudit del Teatro de los Pasados Siglos. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Le but de Banfès, c'est de montrer qu'effectivement, dans le passé, les Grecs, les Latins, etc., les comédias et les tragédias étaient souvent immorales, impudiques, et que donc les pères de l'Église, les théologiens, les ont condamnés à juste titre. Le but des parties suivantes est de dire que, évidemment, las comédias de hoy en España ne rentrent pas dans le même sac et qu'au contraire, elles sont tout à fait morales. Et donc, l'articulo segundo va s'ouvrir, et c'est ça en gros qui donne l'impulsion de son argumentation sur la défense des comédias modernas. L'articulo segundo va s'ouvrir par un éloge enflammé de Calderón qui donne le là. Don Pedro Calderón de la Barca, capellán de honor de su majestad y de los señores reyes nuevos de Toledo, fue quien dio decoro a las tablas. C'est la première, la première notion poétique qui apparaît, et c'est comme le grand mérite de Calderón. Don Pedro Calderón de la Barca, capellán de honor de su majestad y de los señores reyes nuevos de Toledo, fue quien dio decoro a las tablas y puso norma a la comedia de España, así en lo airoso de sus personajes como en lo compuesto de sus argumentos, en lo ingenioso de contextura y fábrica y en la pureza de su estilo. Hasta su tiempo no tuvo majestad la cómica española. Calderón est donc posé d'emblée comme le parangón, le prototype de ce que doit être la comédia, du plus haut point de noblesse acquis par la comédia española. Et à partir de là, maintenant qu'on a posé ce qu'est la norme, on peut faire un rapide parcours du théâtre espagnol contemporain, qui commence par Lope de Rueda, avec une mention rapide mais admirative et respectueuse de Cervantes, pour arriver à Lope, où on s'arrête un tout petit peu plus, mais où l'on comprend en creux en quoi consiste ce décoro dont Calderón a doté la Comédie Española et sur lequel repose toute la noblesse de la Comédie Española que Vences est en train de mettre en avant. Pero Lope de Vega, je cite, ingenio en quien con perenne facundia destilaba Polo todos los raudales de su influencia, habiendo militado en el Piemonte y en el Milanés, en las guerras de Italia, y habiendo visto las representaciones de aquel país, vino a España, donde ya había comediantes que representaban prosa, y puso en estilo las comedias. Las primeras suyas fueron a imitación de la antigua tragedia, en un verso heroico suelto, sin asonante ni consonante, como permanecen entre sus obras, y antes de esta se habían representado en Castilla algunas de las églogas bucólicas del dulcísimo Garcilaso, que fue el primero que trajo de Italia el ritmo. Los argumentos de Lope ni son todos decentes ni honestos, ni la locución de sus primeras comedias es la más castigada en la pureza. Ahí se hallarán los donaires de Matico, donde está una mujer disfrazada, sirviendo de paje a su galán, con bien poca decencia en sus acciones y dichos, y me cansara en vano si trajera ejemplares de los argumentos y versos primeros de Lope, muy poco limados y reparados en todo, en aquella primera ruda infancia del tablado. Vous voyez bien comme il lit, d'une part, un style qu'il considère peu pulido, et l'inconvenance de l'argument. En fait, par opposition entre l'éloge de Calderón et cet éloge plus mitigé, cette allusion plus mitigée à Lope entre admiration et critique, on voit bien que ce décoro qu'on met en avant pour Lope est un décoro qui repose sur la moralité des sujets. Aussi sur le côté plus ou moins poli du langage, mais surtout essentiellement sur la moralité des sujets des comédias. Donc voilà en creux le décoro tel que le conçoit Banfès et tel que, sur lequel va reposer sa conception de la bonne comédie telle qu'il défend et l'espagnol depuis que Calderón l'est fixé. Après Lope, il y a deux genres de gustos qui vont entraîner une évolution différente. D'un côté, el gusto de la gente, dont on peut comprendre que ce sont les élites. El mismo gusto de la gente fue adelantando cada día la lima de la censura, y escribieron después el doctor Mira de Mesco, el doctor Felipe Goniz, el Tirso de Molina, que sabían harta teología y no cometerían un tan ignorante pecado a saber que pudiese serlo, etc. En gros, se développe un théâtre écrit plutôt pour l'élite et qui va aller dans le sens, effectivement, d'une la représentation de argumentos de comédias moralisatrices, pourrions-nous dire, et de l'autre, el gusto estragado del pueblo, dont il dit Don Agustín Moreto fue quien estragó la pureza del teatro con poco reparadas graciosidades, dejándose arrastrar del vulgar aplauso del pueblo. Donc, on voit déjà l'opposition entre ce vulgar aplauso del pueblo dont il ne faut pas se laisser, par lequel il ne faut pas se laisser piéger, et le gusto des élites, qui est évidemment le sens dans lequel il faut aller. De cette division et cette tendance de certains écrivains à suivre le gusto estragado del pueblo, on en vient à la fermeture des théâtres ordonnée par Philippe II et le fait que le théâtre devienne réellement une matière d'État, dans la mesure où Philippe II et après son fils Philippe III vont prendre la question très au sérieux, vont la soumettre à des gentes de théologiens, etc. Et Philippe III, dira Banfès, décide réouvrir les théâtres en prenant toute une série de mesures faites pour empêcher, et qui visiblement recueillent tout l'assentiment de Banfès, faites pour empêcher toute dérive. Et donc avec un real consejo, un fiscal censor, un revisor, todo un tribunal en forma destinado solo a este cuidado de quien no se puede presumir omisión alguna, como ni del Santo Tribunal de la Fe, que tiene también un censor, etcétera, etcétera. Con estas y otras precauciones, donc ce sont toutes des précautions par lesquelles, sur lesquelles Mathès peut s'appuyer pour assurer que les comédies contemporaines sont morales, sont, enfin, ne sont pas coupables, et donc il est en train d'assumer, et c'est ça, je reviens à ce que je disais, et pour y insister, il est en train d'assumer qu'il en va là de la légitimité du théâtre. Donc il est en train de faire sien totalement l'argument de son adversaire et de montrer qu'il se trompe en accusant les comédies actuelles d'immoralité, parce que certes elles doivent être morales, et de fait elles le sont pour toutes ces différentes raisons. Il en conclut en se réclamant de saint Thomas que la comédie per se non peut être pecaminosa. Je vous passe la citation. On voit donc qu'il y a une façon, je ne pense pas qu'il reformule, ça il faudra que j'aille préciser, je pense qu'il le reprend et il le fixe, une conception du decoro d'un point de vue purement moral. À l'origine, la notion de decoro, decorum, n'est pas morale, c'est une adéquation du personnage à ce dont on attend de lui, à ce qu'on attend de lui en fonction de son statut social, une adéquation du langage au personnage qu'il emploie, c'est une idée d'adéquation et pas nécessairement une idée d'adéquation morale. Pour Banthès, el decoro n'est plus que moral. Donc là, il y a une évolution qui est qui certes hérite de toute la pensée humaniste, mais dont la, disons, la ferrazón, non, cette façon de la fixer me semble particulièrement significatif. Et donc, en conséquence, on assiste à une définition, enfin une proposition de classification des comédias en fonction de son sujet, en fonction de l'argumento. Donc, Moyle s'extasie en disant que Banthès est le premier à proposer une définition de la comédia de capa y espada. Bon, ok, mais en soi, c'est pas très bien. Je ne sais pas en quoi c'est absolument fondamental, mais peut-être que vous allez me le dire. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui fasse véritablement avancer la réflexion. Ce qui me paraît plus significatif, c'est justement qu'il ne conçoive une classification des comédias qu'en fonction du sujet, parce que ça montre bien que ce qui l'intéresse, c'est que c'est l'exemple qu'on est en train de montrer au public. Et là, effectivement, on a les amatorias, las historiales, de capa y espada, etc. Je ne rentre pas dans le détail, simplement bien retenir ça, que le seul critère de classification est l'argumento, parce que ce qui importe, c'est le sujet qu'on va présenter au public. C'est dans ce sens-là, de cette conception ultra, enfin strictement moralisatrice de la comédia, on voit bien, on la voit bien à l'œuvre lorsque Banthès reprend la définition de la comédia de González de Salas. Il l'abrège, mais je vous la cite parce qu'il y a deux termes qui sont particulièrement significatifs, qui sont déjà chez González de Salas, hein, c'est pas Banthès qui les invente, mais il les reprend à son compte. La tragedia, et donc la comédia, qui est le terme générique, comme la poésie de façon générale, es una imitación severa que imita y representa alguna acción cabal de cantidad perfecta cuya locución sea agradable y diversa en diversos lugares, introduciendo para la narración varios personajes. Là aussi, l'opposition avec la définition plus purement aristotélicienne que donne López Pinciano est significative. Pourquoi ? Je rentrerai dans le détail à l'écrit. Parce que ces termes de severa, la imitación severa y de acción cabal, la severidad de la imitación y lo cabal de l'acción, sont des ajouts je ne sais pas si de Grenfell et Vessal lui-même les reprend à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce sont des ajouts que Vinfès reprend à son compte et qui disent bien, d'une part, bien sûr, la perfection formelle est de la imitation et de l'action, mais qui, on l'entend tous dans Severo et dans Cabal, il y a aussi une exigence morale. Voilà, dans ces termes, je vous renvoie au Diccionario de Autoridades, où c'est évident. Donc, même maintenant, cette exigence de moralité, de sobriété rentre et est incluse dans la définition même que l'on donne de la comédie. Elle s'est inscrite au cœur même de la définition que Banfès donne de la comédie à la suite de González de Salas. Donc, estas imitaciones, ces comédies, peuvent s'écrire de lo que sucede o de lo que puede suceder poniéndolo verosímil. Il reprend, on le voit, la définition, il en reprend les termes essentiels, imitación, acción, la locución, lo que sucede, lo que pueda suceder, es decir, verdad poética, verdad histórica, la verosimilitud, mais il ne rentre pas dans un besoin de reformulation. Pourquoi ? Parce que probablement, il considère que c'est bon, qu'il n'a rien à reformuler, c'est donné, Salas l'a bien fait. Il ne va pas rentrer dans le détail. Pour lui, ce sont des choses qui sont sues et il considère visiblement qu'il n'a plus rien d'autre à apporter. Ce qu'il va apporter, lui, c'est ce classement tout particulier en fonction des sujets qui découlent donc de cette définition. Je vais l'appeler moralisatrice pour faire vite. Donc, il ne discute ni ne réélabore les quelques notions poétiques auxquelles il fait allusion. Et surtout, il me semble qu'il y a une absence criante dans cette réflexion sur le théâtre que Vinfès nous propose, sauf erreur de ma part. J'ai peut-être lu vite, mais je ne vois nulle part la notion de catharsis. Nulle part. Il n'en parle pas. En gros, et c'est là où je voulais en venir quand je vous disais que, certes, tout le monde est d'accord sur la notion de moralité, l'exigence de moralité du théâtre. La question est comment se fait cet effet moralisateur sur le public. Là où Pinciano introduisait une véritable nouveauté, c'était justement dans la reformulation qu'il proposait de la catharsis, avec un intérêt très poussé, et là aussi ça fait écho à ce que disait Philippe tout à l'heure, un intérêt très poussé à l'individualité même de l'homme, à sa conception, à l'anthropologie, au fonctionnement de ses passions, et comment la tragédie venait par justement les émotions tragiques, la pitié et la peur, venaient mettre en branle la réflexion. Donc il y avait une attention chez Pinciano sur le processus psychologique suivi pour que la catharsis fasse son effet. Ici, rien de cela. Là encore, sous réserve, mais il ne me semble pas qu'il y ait même pas le terme, ni encore moins la moindre attention à la catharsis. On trouve dans la troisième version une approximation à ce qu'est l'homme, une très rapide anthropologie, où l'on retrouve de façon très étonnante dans cette fin du XVIIe siècle l'idée de l'homme comme un microcosme. On la retrouve aussi chez Pinciano, mais extrêmement schématique, et surtout l'homme compris comme un microcosme, mais de telle façon que Vinfès s'intéresse moins au microcosme de sa complexion, de la façon dont il est construit en tant qu'homme, de son anthropologie, comme un reflet du monde et du cosmos, mais surtout, il s'intéresse surtout à l'inclusion de l'homme dans l'ensemble dans lequel il vit. Donc on s'intéresse moins à sa facture comme un reflet du cosmos, que donc à sa facture individuelle, que à sa situation harmonieuse dans un ensemble plus global. Et c'est là, je pense, que l'on voit le changement total de perspective qui est en train de s'opérer dans cette fin de siècle. Je crois que c'est à cause de cette nouvelle perception de l'homme, moins centrée sur son individualité, sur son fonctionnement psychologique et anthropologique que sur son inclusion dans le collectif, que l'on vient à comprendre, à mieux comprendre la très puissante conscience du rôle social du théâtre. Il y a effectivement un décalage, et ça aussi je redis ce que disait Philippe, on passe de cet intérêt pour l'individualité, bien sûr qu'on présente un ensemble, etc., social, cosmologique, etc., mais une attention quand même portée à l'individualité pour aller plutôt du côté du collectif. Et donc, en perdant de vue toutes ces fonctions psychologiques de l'homme, on perd de vue ce qui avait fait la richesse de cette poétique du début du siècle et qui avait porté toutes les innovations littéraires du XVIIe siècle, pour en revenir à une conception de la moralité, ou en tout cas de la façon dont le théâtre va moraliser son public, beaucoup plus superficielle, pour ainsi dire. En gros, la dimension morale ou pédagogique, Philippe en parlera sans doute, du théâtre, est ramenée à nouveau, je dirais, parce que c'est vrai qu'on a, on a l'impression, on va en avant mais en arrière, c'est comme disait Philippe, les choses ne sont pas tout à fait, tout à fait linéaires, mais sont toujours faites de reformulations et de reprises. On revient vers une conception de la dimension moralisatrice de la fiction comme pure exemplarité. Et j'en veux pour preuve, bien sûr, ce qu'il est en train de dire sur ce qu'est le théâtre et pourquoi il est moral en cette fin de XVIIe siècle, mais aussi sa dimension pédagogique vis-à-vis du prince. En fait, c'est une réactualisation de cette tradition des miroirs des princes à l'attention, bien sûr, du prince, mais aussi du peuple en général. Et là encore, on voit bien comment on avance dans le sens de ce que sera le théâtre du XVIIIe siècle. Donc, pour le dire très, très, très vite... il me semble que, alors que le XVIe avait été traversé par la condamnation des romans de chevalerie, mais avait quand même abouti à ce Quichotte qui en était à la fois la condamnation et, je crois, l'exaltation merveilleuse, le XVIIe et donc le triomphe de la littérature de fiction, le XVIIe siècle, qu'on bouleverse d'un point de vue théorique, sera traversé par les polémiques sur la poésie de Gongora et sur le théâtre. Dans les deux cas, dans le cas des deux polémiques, la dimension de la corruption est fort présente, mais dans le cas du théâtre, elle acquiert une dimension politique encore plus importante, et d'autant plus importante que le sentiment de décadence s'installe très tôt dans l'Espagne des Habsbourg. Donc je crois qu'il faut aussi ne pas oublier ce lien entre ce sentiment de décadence qui, rétrospectivement, les historiens sont en train de remettre en question, mais qui était quand même fort présent chez les Espagnols, même depuis la fin du règne de Charles Quint et de Philippe II lui-même. Donc, je crois que ça n'est pas pour rien dans cette conception, cette attention portée au théâtre comme une arme puissante d'éducation du peuple, bien sûr, la violence des débats et les choix qui seront faits dans cette fin de siècle. Dans cette évolution, je crois qu'il faut aussi tenir compte, Philippe Meunier, il fera sans doute, il reviendra tout à l'heure, de l'évolution de la scène théâtrale, où on est passé de corrales à la scène palaciega, qui est de plus en plus importante. Donc il ne s'agit plus d'éduquer le peuple, mais aussi l'élite et le prince, et évidemment le discours n'est pas forcément le même. Alors, pour conclure de façon très très rapide et puis un peu abrupte et peut-être un peu provocatrice, mais j'aurais envie de dire que cette exigence assumée et revendiquée par Banff, et c'est qui est son fer de lance et son signe le plus reconnaissable, j'ai presque envie de dire, pardonnez-moi la licence, que c'est presque un cul-de-sac poétique. C'est-à-dire que les termes de la discussion ont été posés par la polémique sur la moralité du théâtre, et par la façon dont on pose le problème, on fige les termes poétiques dont Banff va se servir, mais qu'il n'en remettra absolument pas en question. Donc Banff va les réemployer et il fige de la sorte la finalité du théâtre comme éducation de tous, et du prince en particulier, mais selon une modalité qui me semble du point de vue poétique, très appauvri par rapport à un siècle avant, à savoir une modalité qui ne passe, enfin qui conçoit l'éducation que propose le théâtre que par l'observation d'exemples édifiants, tels une réactualisation collective de la tradition des miroirs de princes ou même des vies des saints. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention.